Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royans Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour et bienvenue dans la chronique Osons l'intime, une chronique portée par Stéphanie.
Bonjour.
Et moi-même, Claire, du collectif Féminin Naissance. Et donc, aujourd'hui, on continue à parler des violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est un épisode qui va être donc dédié aux ressources pour protéger et accompagner au mieux les enfants face aux violences sexuelles.
Ouais, exactement. Comme je disais dans le premier épisode, moi, je me suis retrouvée avec beaucoup d'impuissance en tant que maman. Et dans mon chemin de résilience, j'ai retrouvé de la capacité à agir. Et c'est passé notamment par le fait d'être mieux informée pour pouvoir mieux protéger aussi les enfants et pour pouvoir mieux les accompagner quand malheureusement ils ont été confrontés aux violences et ils en ont vécu. Et donc j'ai envie avec ces deux chroniques de vous transmettre un peu de ces ressources. Et vraiment l'élan au fond derrière tout ça, c'est d'essayer de sortir ensemble de cette forme d'impuissance. Alors d'abord, on va rappeler nos ressources du vivant qui nous avaient déjà accompagnés pour la première chronique. Et la première ressource, c'est le lien. C'est ce maillage solidaire d'adultes, je dirais référents, protecteurs, informés, qui sont là pour se soutenir entre eux, pour former un réseau et aussi pour soutenir et protéger les enfants. Parce que notre impuissance, elle se nourrit d'isolement et sentir qu'on est ensemble en fait, qu'on est vigilant ensemble, qu'on est protecteur ensemble, c'est hyper important, c'est essentiel. Et donc je vais vous inviter à peut-être visualiser, ressentir la présence de ce réseau. Peut-être que là tout de suite vous voyez pas d'adultes, d'autres adultes autour de vous avec qui vous pouvez le partager, mais sachez qu'on est là en fait, que dans la rue, même si vous les connaissez pas, il y a d'autres personnes qui sont informées, qui sont protecteurs. Il y a d'autres personnes qui peuvent être ressources. Et puis la deuxième ressource, c'est le mouvement dans la nature, le mouvement du vent, de l'eau, de tout ce qui fait mouvement dans votre corps, tout ce qui va permettre, même si c'est un tout petit peu, de défiger, de commencer à avancer, de commencer à entrouvrir la possibilité d'évoluer peut-être. Ensemble aussi avec ces grands sujets qui parfois nous stoppent un peu dans notre vie. Donc ce mouvement, et on peut vraiment se nourrir aussi du mouvement dans la nature. Comment fait la rivière pour dépasser un barrage, une embâcle? Voilà. Je voudrais aussi replacer dans un cadre plus large les outils que je vais vous présenter et donner des repères. La CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a formulé 82 recommandations en 2023 pour améliorer la protection. Elles sont structurées autour de 4 grands axes. Repérage, la détection, le traitement judiciaire, la réparation incluant le soin et la prévention. Ces recommandations visent à un changement global à tous les échelons de notre société pour passer d'un système qui aujourd'hui est trop passif, fragmenté et centré sur les preuves à un système qui va devenir actif avec un repérage systématique, un système qui devient coordonné, centré sur la protection des enfants. Et cela repose sur 3 principes fondamentaux. Croire la parole de l'enfant, agir avec ce que j'appelle dextérité, c'est-à-dire on peut dire vraiment rapidité, on peut pas laisser les choses traîner en vrai. Et la troisième fondation, c'est la responsabilité collective de toute la société, c'est faire ce fameux maillage solidaire dont je parlais. Les ressources que je vais vous présenter sont principalement destinées ici aux particuliers, aux parents, aux proches qui souhaitent être acteurs dans la protection de leurs enfants ou des enfants de leur entourage. Et avant de commencer, j'aimerais remettre les responsabilités à leur place. Je vais vous donner des clés de prévention, mais cela ne veut pas dire que vous êtes censé protéger vos enfants de tout. Je voudrais vous dire quelque chose d'essentiel. Quand bien même vous êtes là impliqué dans la protection, En aucun cas, vous n'êtes responsable des violences qu'un tiers pourrait commettre sur votre enfant, y compris si c'est un proche ou quelqu'un de votre famille. C'est ce qu'on appelle ça une inversion de responsabilité. Et c'est vraiment cette logique qui est souvent utilisée par les agresseurs eux-mêmes. Donc il ne faut vraiment pas qu'on rentre dans cette logique-là. Seul l'agresseur est responsable de ses choix, de ses paroles et de ses gestes. Et je rappelle que la protection des enfants est une responsabilité collective, que toute la société doit être organisée autour de cela pour agir de manière coordonnée au vu de l'ampleur de la problématique. Donc on ne peut pas non plus laisser reposer la seule responsabilité sur les parents ou sur un des parents. De la même manière, éduquer les enfants ne veut pas dire les rendre responsables de leur protection. Un enfant n'a pas la capacité d'assurer sa sécurité. L'éducation de cet enfant est là pour le soutenir, pas pour le culpabiliser ou pour le surresponsabiliser. Donc dans ce qui suit, je vais vous donner des outils pour surtout l'axe prévention. Et puis nous parlerons plutôt de réparation et de soins dans un deuxième temps. Alors, dans prévenir, il existe plusieurs leviers adaptés selon l'âge de votre enfant et selon votre contexte. On va passer ensemble en revue quatre actions de prévention contre les violences sexuelles. D'abord, identifier les situations et les personnes à risque. Deuxièmement, agir face aux situations et aux personnes à risque. Troisièmement, éduquer et outiller vos enfants ou les enfants en fonction de leur âge. Et quatrièmement, mettre en place un comportement avec vos enfants, nos enfants, qui est protecteur. Alors, on va commencer par l'identification des situations et des personnes à risque. Alors, je vais vous donner quelques grands repères. C'est des chiffres qui sont quand même assez difficiles à entendre, hein, parce qu'ils révèlent l'ampleur systémique, hein, de la situation. Et voilà, c'est aussi protecteur, hein, de ne pas voir ça en face. Mais c'est aussi important parce que vous allez voir, c'est comme ça qu'on va comprendre comment on va pouvoir agir. Donc, les principales victimes de violences sexuelles, toutes violences sexuelles confondues, sont les enfants. Ils représentent 81% de toutes les victimes de violences sexuelles. Ça concerne une fille sur 5 et un garçon sur 13 qui sont victimes de violences sexuelles avant leur majorité. Un Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste. Un Français sur 10. Si on commence à regarder un petit peu le profil des agresseurs, 94% des agresseurs sont des proches, sont des gens connus en fait du mineur, de la famille. Et 50% de toutes les agressions sexuelles commises sur les enfants, donc 50% des agresseurs sont des membres de la famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'abord? Ça veut dire que, finalement, l'agresseur, enfin, cette espèce d'hypervigilance qu'on pourrait avoir dans la rue, dans des endroits un peu inhabituels, ben, en fait, elle va pas être ce qui va être le plus efficace. En fait, on va vraiment se tourner pour être vigilant, vigilante, vers notre cercle de proches, notre famille. Et on va chercher à détecter les profils d'agresseurs que je vais vous détailler après, dans les gens qu'on connaît, que nos enfants connaissent. Donc, quelque part, c'est difficile, ça, d'entendre ça. Mais quelque part, ça peut aussi beaucoup nous faciliter la tâche en tant que protecteur, parce que, ben, on a sous nos yeux des situations souvent qui peuvent nous alerter avant l'agression elle-même. Je vais vous donner un autre chiffre pour aller un peu plus loin vers comment on va détecter les profils à risque. C'est que dans 9 cas sur 10, ce sont des hommes. Et que 25 à 30% des agresseurs sont des mineurs eux-mêmes de moins de 18 ans. Et ça, on le sait trop peu. On imagine beaucoup un homme de plus de 50 ans. Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup ce stéréotype en tête, hein, et c'est pas du tout le cas. Il y a un tiers des agresseurs qui sont des ados, principalement des ados, en fait. Donc, si on va un petit peu plus loin, en fait, je vais vous donner des choses assez concrètes qui viennent de tout le travail de Joanna Smith. Joanna Smith, c'est une psychologue qui est spécialisée autour des violences sexuelles et qui a beaucoup travaillé avec les agresseurs. Et donc, qui a fait une forme de profilage des agresseurs. Et en fait, on voit que dans une grande mais écrasante majorité des cas, il y a trois profils qui sont représentés. Les agresseurs sont dans trois profils. Donc, quand on connaît ces trois profils, on est beaucoup plus plus à même d'être posée, de détecter les situations et les personnes à risque. Le premier profil, ça va être les agresseurs qui vont être hostiles envers les enfants. Donc ça va être des personnes, des adultes qui vont être irrités, agacés par votre enfant ou un enfant dans son entourage. Souvent, avant l'agression sexuelle, ces personnes vont déjà être agressives verbalement, voire ensuite physiquement avec les enfants. Avoir des attitudes hostiles, brusques à l'égard des enfants. Ces attitudes sont déjà de nature à nous alerter. Il est possible de repérer parfois des facteurs de risque aussi chez ces personnes qui vont consommer de l'alcool ou des drogues et ça va les désinhiber dans leur manière d'exprimer leur violence. Ce sont avant tout des personnes violentes. Et ces adultes utilisent leur position de pouvoir envers les enfants. Il est pour eux moins dangereux de décharger leur colère, leur agressivité, leur frustration sur des enfants. Parce qu'ils sont, par définition, vulnérables. Donc, par exemple, un conflit avec un adulte, ils vont pas le gérer avec cet adulte-là, mais ils vont aller décharger cette agressivité sur un enfant de l'entourage. Donc, ça peut, par exemple, être des personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, une rupture, un licenciement. C'est pas en aucun cas hein, pour enfin, les excuser, hein, c'est pour plutôt mieux comprendre les situations qui peuvent vous alerter. Ce peut être aussi des adolescents, et là on va être aussi très attentif à ce qui se passe autour du harcèlement, par exemple des violences que peuvent vivre votre enfant ou l'enfant dans le milieu scolaire, associatif, sportif. Parce que ces situations de violence entre ados-enfants ou entre ados peuvent être précurseurs aussi de violences sexuelles. Donc ça c'est une première situation, donc on va chercher plutôt à reconnaître des adolescents ou des adultes agressif qui décharge une agressivité. Et finalement, l'agression sexuelle est d'abord une agression violente avant d'être sexuelle. Et c'est une décharge d'agressivité sur l'enfant. Le deuxième profil et la deuxième situation, c'est l'agression avec une dynamique de contrôle et de domination. Donc là, principalement, on va parler d'inceste, en fait. On va parler d'inceste fait par un ascendant. Donc là, moi, je peux pas m'empêcher de repenser à moi qui était en train de scruter les faits et gestes de mon conjoint, de mon père, de mon beau-père. Et en fait, je sais qu'avec ces informations-là, j'aurais pu beaucoup plus tôt m'apaiser, trouver des repères concrets pour qualifier les situations que j'avais sous les yeux, savoir si c'était vraiment dangereux ou pas pour mes enfants. Parce que j'ai été dans toute une phase de ma vie, pendant plusieurs mois, dans cette espèce de flou, à pas savoir si c'est normal, c'est pas normal. Enfin, c'était hyper stressant. Donc, je vais grossir un peu le trait, mais vous trouvez beaucoup plus de finesse dans les références que je vais donner sur le livre et le podcast de Johanna Smith. Donc, en grossissant le trait, c'est le profil du patriarche tyrannique. Le père, le grand-père, le beau-père, souvent de longue date, hein, c'est pas un beau-père récent. Tyrannique, rigide, dominateur, quelqu'un avec qui on peut pas faire entendre son point de vue, ni négocier. Avec une vision un peu paranoïaque du monde, qui garde la famille très renfermée sur elle-même. On parle ici donc d'inceste, comme je disais tout à l'heure. Cette personne va communément se servir d'humiliation, de violence psychologique. Et au-delà de la violence sexuelle, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, comme je disais, dominateur avec les personnes de son entourage. Souvent, ces personnes ont un problème d'alcool et c'est un facteur de risque. Et ce type de violence se trouve souvent dans un clan, une ambiance incestuelle. On appelle ça une ambiance familiale incestuelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'incestuel ? C'est l'intimité qui n'est pas respectée. Les enfants apprennent très tôt que leur corps, leur intimité ne leur appartiennent pas. Cette ambiance, elle peut être vraiment transmise de génération en génération et être installée. Il peut être comme difficile de s'extraire de ça et même de concevoir que c'est pas normal en fait. Ces hommes peuvent être dominateurs aussi en dehors de la sphère familiale. Parfois, ils ont des rôles sociaux valorisés, influents, mais pas forcément. Ça peut être aussi des hommes qui sont assez mal à l'aise en dehors de la sphère familiale. Les violences dans tous ces cas-là, hein, dans tout ce groupe-là, sont commises très fréquemment sur des filles et par des personnes qui, par ailleurs, ne sont pas attirées sexuellement par des enfants. Les adultes agresseurs considèrent l'enfant comme à eux. Ils ont un besoin de contrôle sur l'enfant. Les violences sexuelles vont apparaître souvent à un moment où l'enfant grandit. Il s'intéresse à sa manière de s'habiller. L'enfant prend de l'autonomie. Il va commencer à vivre ses premiers amours. L'agression devient un moyen de garder la main sur l'enfant, de garder du contrôle. Donc ce qui va vous alerter, c'est le comportement de contrôle sur l'enfant, l'adolescent. Et souvent, la mère ou les femmes de l'entourage de cet homme vont également subir cette même coercition. Et donc, c'est là que c'est très compliqué, parce que si on vit nous-mêmes cette même coercition, si on a grandi dans cette ambiance incestuelle, ça va être difficile pour nous de l'identifier. Donc, j'espère que ces quelques éléments vont commencer à pouvoir vous aider à mettre le doigt sur ces éléments qui peuvent vous alerter. Alors, on va passer au troisième et dernier profil d'agresseurs et de situations qui peuvent vous alerter. Donc, il faut d'abord retenir qu'une violence sexuelle, c'est d'abord une violence avant d'être sexuelle. Et comme je vous le disais, finalement, dans le premier et le deuxième cas des agresseurs, les agresseurs ne sont pas forcément attirés sexuellement par les enfants par ailleurs. Mais dans ce troisième cas, c'est vraiment là où les agresseurs sont attirés sexuellement par des enfants prépubères ou par des adolescents très très jeunes. Ces personnes vont se faire croire et vont faire croire aussi à leur entourage et surtout à la victime qu'il y a une pseudo-relation amoureuse, une relation spéciale. Ils endorment. Ils empêchent de voir les mécanismes d'emprise à l'œuvre. Donc il y a beaucoup d'emprise dans dans la manière de procéder de ces troisièmes profils d'agresseurs. L'emprise, c'est quoi ? Pour le détecter, c'est trois facteurs. C'est le non-respect des limites, c'est le fait de rendre dépendant la personne, et d'être dépendant, donc victime, et c'est le fait d'endormir le sens critique. Donc pour communiquer avec les enfants, l'emprise, c'est le chaperon rouge. C'est le chaperon rouge qui va dire « Mais mère grand, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?» Et puis le loup qui lui dit « Mais c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. » En fait, le chaperon rouge est sous emprise. Il voit très bien qu'en fait, c'est pas sa grand-mère. Il voit très bien que c'est un loup, en fait. Mais on endort son sens critique. Alors, cette relation d'emprise peut toucher toute la famille. L'agresseur peut se rendre sympathique, rendre des services ou chercher à détenir un secret, tout cela pour avoir un moyen de pression. Les agresseurs utilisent les distorsions cognitives. Ils vont vraiment mettre en place toute une narration qui raconte que cette relation est spéciale, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du consentement. Ça sous-entend qu'il y a un consentement, en fait, derrière. Que en dehors des règles sociales bien posées, en fait, que la société est trop fermée et trop puritaine et qu'ils ne comprennent pas ce type de relation. Il y a toute une narration autour de ça. Ces agresseurs, ils ont quel type typologie ? Ce sont des personnes qui ont une forte congruence émotionnelle avec les enfants. Ils sont plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Ils se comportent même comme des enfants en leur présence. Et c'est ça qui peut vous mettre la puce à l'oreille aussi. Donc les deux choses qui vont signer ces situations qui peuvent vous alerter, ça va être la situation d'emprise. Ok, est-ce que c'est bien normal que cette personne me rende tous ses services, soit proche à ce point ? Ça peut être normal, mais ça vaut le coup de se poser la question. La deuxième chose, c'est est-ce que cette personne, elle me paraît bien mature ? Est-ce que cette personne, elle est plus à l'aise, elle va se tourner plus vers les enfants que les adultes, alors qu'elle est adulte elle-même. Ces personnes-là, finalement, peuvent beaucoup se rapprocher des enfants, ils vont chercher à travailler avec les enfants, ils peuvent être investis dans le milieu sportif, associatif. Ces hommes sont plutôt immatures, pas réfléchis, très centrés sur eux. Ils assument mal souvent leurs responsabilités d'adultes. C'est des hommes qui vont éviter les conflits, ne sont pas à l'aise avec le fait de dire non, pour négocier, pour exprimer leurs émotions, leurs besoins. Et ce manque finalement de compétences qu'ils ont font qu'ils vont être plus à l'aise avec des enfants avec qui il va être moins nécessaire d'avoir tout ça pour relationner en fait. Donc, ces adultes, ils vont pas être au clair avec l'asymétrie de la relation adulte-enfant, ou alors plus âgé, plus jeune. Ils vont considérer que cette différence de maturité n'est pas un problème. Mais on peut aussi retrouver ici des adolescents, donc des enfants de plus de 13 ans, qui préfèrent se tourner vers des enfants plus jeunes, parce qu'ils vont avoir une forme de complexe à aller se tourner vers des ados de leur âge pour vivre leurs premiers amours, pour commencer à explorer leur sexualité. Voilà, donc on a fait le portrait un peu de ces trois grandes situations et de ces trois types d'agresseurs. J'espère que ça peut vous aider à retrouver des repères. Et dans la prochaine chronique, je vais vous apporter des éléments pour pouvoir agir dans ces situations-là, continuer à prévenir avec de la sensibilisation et aussi vous donner des clés d'action si vos enfants ou des enfants de votre entourage ont été victimes d'agressions sexuelles.
Merci beaucoup Stéphanie, merci pour cet épisode et hâte d'être au prochain pour de nouvelles ressources et sentir moins impuissante. Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.